Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, singuliers, pluriels et à la marge, bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'onde curieuse de ce jeudi 8 janvier. Aujourd'hui, dans la foulée de cette semaine, on continue de corrompre le monolithe, l'univoque, la tendance unanime pour faire résonner le multiple. Après les voix décalées, collectives et légèrement hors piste de nos amis de l'écho de la Réhab, lundi, des voix qui nous parlent depuis la psychiatrie, après les polyphonies d'Ardèche ou de Bulgarie, mardi avec Agnès Clauzel et Maëlle Duchemin, place aujourd'hui à une maison qui fait entendre le verbe imprimer, publier, éditer, qui se conjugue au pluriel, les bien nommées éditions au pluriel, situées au Vence et fondées par Fabienne Dedine. À quoi ça ressemble et comment ça marche une maison d'édition singulière et néanmoins plurielle en milieu rural? On en parle dans un instant avec Fabienne Dedine, donc la directrice des éditions au pluriel. Mais d'abord, la bise, ou plutôt devrais-je dire les bises avec un S au pluriel, Sylvain.
Bisous, bonjour.
Oh oui, salut Sylvain. Et l'agenda? En écho à notre sujet, dans l'agenda du pluriel et des mots. Ce soir, à 20h30, une conférence gesticulée au tiers-lieu La Ferme à Aubenas, qui s'appelle « Libérer, délivrer, alerter les bébés ». Tiphaine Ducharne, mi-fugue, mi-raison, se pose la question des droits des enfants en général, à l'heure du consumérisme en particulier, et se demande notamment du berceau des dominations à la captation de notre imagination, à quoi ces rêves, ces histoires, ces chansons résistent. Il y aura donc, vous l'aurez compris dans ce spectacle conférence, des dessins, des chansons et même une clown, puisque la praticienne d'éduc pop qu'est Tiphaine Ducharne manie aussi le nez rouge. Le spectacle est au chapeau, ça parle des enfants, mais ça s'adresse plutôt aux adultes ou aux ados, c'est ce soir à 20h30 à la ferme à Aubenas. Et Tiphaine Ducharne se conjugue au pluriel, puisqu'elle présente un deuxième spectacle qui s'adresse cette fois au jeune public à partir de 7 ans, mais pas que. Ça s'appelle « Waline et les choses de la vie », samedi à 15h au Moulinage de Chirolles. Cette fois, elle décrypte les humains par ce qu'en disent les objets. Et oui, c'est le grand jour pour Waline, celui où les objets abandonnés sont convoqués pour raconter leurs histoires, que Waline, qui parle aux objets, ça arrive, va vous interpréter. Ce sont des histoires qui en disent long sur celles des humains, drôles, tristes, qui font peur. Enfin, c'est la vie, quoi. La vie mode d'emploi. Et c'est de référence à Pérec qui se veut subtil pour passer aux mots. Des mots corporels, des sensations de virgule, d'exclamation, de point d'interrogation, de suspension et du brouillon. Encore du brouillon, des ratures pleines de mes veines en fureur, des traces, des lignes le long de ma colonne verte et mots. Ce sont les premiers mots de la note d'intention du nouveau spectacle de Yvan Gascon de Hieraz Compagnie qui s'appelle 36 minutes et des poussières. Un solo pour un danseur, un livre et une partition à voir demain vendredi à 18h30. Ce sera au Moulin sur Volanne à Vals-les-Bains et c'est organisé par l'association Le Moulin des Partages située 33 impasse des Naïades. C'est l'ancienne adresse, avant ça s'appelait 65 rue Jean Jaurès, c'est donc à Vals-les-Bains. L'écriture ne serait-elle pas une danse? Les mots un enchaînement? Les lettres une posture? La ponctuation, un silence, une suspension, une page blanche, l'espoir. C'est à voir demain, donc à 20h30, au Moulin sur Volanne, à Vals-les-Bains. La participation est libre et consciente, et c'est aussi l'occasion d'échanger avec le danseur Yvan Gascon en fin de spectacle, devant un petit verre. Et on termine cet agenda par une cavalcade, celle d'Emmanuel Ritou, artiste en résidence à La Cascade cette semaine, qui présente demain à 19h30 une étape de création de son spectacle Street Cheval, un spectacle qui mêle jonglage et cavalcade autour d'une épopée, celle d'un héros sur les traces d'Eros. C'est gratuit, sur réservation auprès de La Cascade et accessible dès 7 ans, et La Cascade bien sûr, c'est à Bourg-Saint-Andéol. Musique maintenant par le chanteur et musicien français le plus âgé en activité. Oui, je l'ai appris grâce à Wikipédia. Merci Wiki. 96 ans, qui reste pluriel, même si je crois me rappeler qu'il a été plutôt, sur la fin de sa vie, là, monarchiste. Bon, on en parle après.
Bon Dieu s'énervait dans son atelier. Ça fait 3 ans que j'ai planté cet arbre et j'ai beau l'arroser à longueur de journée, pousse encore moins vite que ma barbe. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long.
Pour faire un arbre,
mon Dieu que c'est long.
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier. Sur ce maudit pot d'aide, 10 ans j'ai travaillé. Je n'arrive pas à le faire avancer, ni encore moins à le faire reculer. Pour faire un arbre,
Dieu que c'est long.
Pour faire un arbre,
Dieu que c'est long.
Pour faire un arbre,
Dieu que c'est long.
Pour faire un âne,
mon Dieu que c'est long.
S'énervait dans son atelier en regardant Adam marcher à 4 pattes. Et pourtant, nom du pip, j'avais tout calculé. Oui, pour qu'il marche sur ses 2 pieds. Pour faire un homme,
pour faire un homme, mon Dieu que c'est long.
Pour faire un homme,
pour faire un homme, mon Dieu que c'est long.
Pour faire un homme,
pour faire un homme, mon Dieu que c'est long.
Pour faire un homme,
mon Dieu que c'est long.
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier en regardant le monde qu'il avait fabriqué. Ces gens se battent comme des chiffonniers et je ne peux plus dormir en paix. Pour faire un monde,
pour faire un monde,
mon
Dieu que c'est long.
Pour faire un monde,
pour faire un monde, mon Dieu que c'est long.
Pour faire un monde,
pour faire un monde, mon Dieu que c'est long.
Pour faire un monde,
mon Dieu que c'est long. Pour faire un monde.
Hugo Frey, Le bon Dieu s'énervait, c'était en 66, issu de l'album Horizon, c'est l'un des choix de notre invité. Alors, pour faire un monde, ouais, mon Dieu que c'est long, et son métier à elle, c'est d'en faire, d'en donner à lire les multiples des mondes. Fabienne Dedine, bonjour.
Bonjour Sophie, je suis très contente d'être là aujourd'hui à Fréquence 7 pour cette onde curieuse. En effet, Hugo Frey, ça m'a fait plaisir que vous le passiez. Hein. C'est quand même un personnage qui, pour nous, a une petite résonance parce qu'il était, il a accepté de dédicacer le tout premier livre de la maison d'édition, les éditions au pluriel. Et c'était un livre de poésie qu'on a plu, mais dont Hugo Frey a signé la préface en parlant de poésie, et c'était un vrai bonheur. Et puis là, pour un des derniers livres qu'on vient de sortir, le livre Transhumance, nous lui avons demandé s'il accepterait de venir parler de la transhumance, car il a prêté sa voix un superbe documentaire qui vient de sortir aussi sur la transhumance, qui s'appelle Les dernières transhumances et qui passera au cinéma des Vences début février, mais nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler.
Ouais, merci donc Fabienne. Alors justement, tu évoquais le premier livre. Est-ce qu'on peut remonter un petit peu dans le temps et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir fondé une maison d'édition au Vence, il y a de ça combien de temps ? Quelques années ?
Quelques années, 2014. On a commencé en 2014. J'ai repris l'atelier de reprographie, atelier pluriel, qui existait au Vence déjà depuis quelques années. Et mon but n'était pas que de faire des cartes de visite, mais aussi de créer justement une petite maison d'édition à ce moment-là. On n'a pas pu le faire tout de suite parce que c'est pas si évident que ça. Et puis, un jour, je suis tombée sur un gars, un poète, qui est arrivé avec son cahier et des très très beaux textes. Il voulait simplement que je les mette en page, que je les imprime pour sa famille, ses amis, ce qu'on faisait d'habitude. Et j'ai été bouleversée par le talent de Rachid Mohammedi et je lui ai proposé d'éditer son livre. Donc on a travaillé sur ce recueil de poèmes et puis on a lancé le tout premier livre de la maison d'édition, les éditions au pluriel. Voilà.
Et quand tu dis on a édité, qu'est-ce que ça implique d'autre que de simplement imprimer et de mettre en page ?
Ah, la maison une maison d'édition, c'est pas un imprimeur, c'est pas du tout ça. L'éditeur, c'est quelqu'un qui va découvrir des textes, rencontrer des auteurs, et puis faire en sorte que ces textes deviennent un objet, l'objet livre, et que cet objet soit agréable, fini, le plus intéressant possible pour que le lecteur ait envie de se l'approprier. Et donc, y a un travail permanent pour que le texte de départ soit quelque chose d'agréable à appréhender pour le lecteur. Entre le manuscrit et le livre, il y a quand même pas mal d'étapes.
Mmh. Dieu que c'est long, comme disait Hugo Frey, ça peut prendre justement combien de temps cet accompagnement ?
Alors généralement, entre la lecture du manuscrit et le livre fini, il se passe une année. C'est rarement moins. Ça arrive, là c'est arrivé il y a peu parce qu'on a eu la chance d'avoir un auteur connu qui nous a offert un manuscrit. Et là évidemment, quand on a affaire à un briscard, c'est pas pareil. Lui il connaît tous les rouages, il sait qu'il doit remettre un texte de telle ou telle façon. Il a une plume qui est déjà affirmée, donc on n'a pas du tout ce même souci. Et encore, on a quand même passé presque 4 mois entre le manuscrit et la sortie du livre.
Et alors justement, donc, qui sont les auteurs ou comment est-ce que tu vas les chercher ? Est-ce qu'il y a un auteur qui pousse la porte, qui vient te donner un manuscrit ? Comment ça se passe ? J'imagine qu'il y a plein de cas de figure même.
Il y a plein de cas de figure, mais il y a quand même énormément de manuscrits. Hein. Là, juste avant les vacances de Noël, on en a reçu 70 en 15 jours qui sont arrivés. Simplement par mail et donc c'est énorme en fait pour une petite maison d'édition comme la nôtre. 70 manuscrits, c'est pas gérable. C'est trop, et il y a une vague comme ça tous les ans, généralement avant les vacances de Noël et avant les grandes vacances.
Ah bon ? Et comment tu l'expliques ?
Parce que je pense que c'est des buts que les personnes se mettent. Je veux finir ça avant la fin de l'année, je veux finir ça avant les vacances, et donc on reçoit énormément de manuscrits à ces périodes-là. On en reçoit toute l'année, mais ça, c'est particulièrement intense. La pire période, c'était après Covid. C'était vraiment ingérable. Et puis, il y avait une impatience aussi des personnes qui étaient très, très difficiles à gérer.
Alors justement, là, vous recevez 70 manuscrits. Comment vous faites d'abord ? Qui lit ? Est-ce que tu es toute seule à lire les manuscrits ou est-ce qu'il y a d'autres ? Parce que vous êtes une petite équipe.
On est une toute petite équipe, mais bon, moi j'ai des copains, copines très sympas qui jouent comité de lecture. Donc non, je ne lis pas toute seule. Je fais un premier tri au départ, et puis après, dans ce que je garde, je confie à mon comité de lecture, un petit peu en fonction du thème du livre, et si la première personne ça colle, on continue, puis dès que ça s'arrête, on discute, et puis on voit pourquoi ça s'arrête. Et à ce moment-là, ben, on discute avec l'auteur. On n'a pas assez de possibilités financières pour pouvoir prendre n'importe quoi. Enfin, c'est pas vraiment n'importe quoi par rapport au talent de l'auteur. C'est par rapport à qu'est-ce qu'on va arriver à défendre, qu'est-ce qu'on va arriver à faire. Voilà, c'est pas qu'une question de qualité de l'écrit. C'est aussi une question
de rencontre avec un public.
C'est une rencontre avec un public. C'est parfois quand même la distance. L'âge de l'auteur, tout ça peut intervenir aussi parce que il faut défendre un livre. On n'est pas Gallimard, on n'est pas Albin Michel, on est une toute petite maison d'édition, donc on doit se battre pour que nos livres soient en librairie. Donc c'est là le grand problème en fait. C'est après arriver à vendre les livres.
Alors plusieurs questions. J'en reviens déjà à l'origine. Effectivement, tu parles de ces difficultés financières. Il y a à peu près 10 000, je crois, maisons d'édition en France, à peu près, donc des petites. Tu as raison de dire que il y en a quelques-unes qui sont, qui sont souvent présentes pour tous les prix, etc. Enfin, les grandes maisons d'édition. Mais une maison d'édition, c'est peut-être difficilement rentable. Alors, qu'est-ce qui pousse, je reviens à ma question, qu'est-ce qui pousse à créer cette maison d'édition, cette rencontre.
Juste parce que j'aime lire, parce que j'ai toujours eu envie de faire ça, et depuis très longtemps, et qu'il a fallu quand même attendre très longtemps avant que je puisse avoir cette opportunité. Et sinon, c'est toujours pas rentable. Grâce à l'atelier de reprographie, on peut continuer à faire fonctionner cette maison d'édition, mais l'entité maison d'édition toute seule n'est pas rentable. Donc il faut quand même savoir que pour qu'un livre soit rentable, il faut en vendre à peu près 2000 à 3000. En dessous de ça, le livre, forcément, il n'est pas rentable. Parce qu'il y a des frais fixes, hormis l'impression. Il y a toute la partie mise en page, graphisme, publicité. Et puis après, il y a toute la mise en route d'un livre qui est quand même très lente, sans parler du travail en amont qu'a réalisé l'éditeur avec l'auteur. Donc, en dessous de ça, on ne vend pas de livres. Il faut savoir qu'un succès de librairie, ce qu'on appelle un succès de librairie, c'est 10 000 exemplaires vendus. Et qu'un livre comme un Goncourt, c'est entre 400 et 800 000 exemplaires. Donc il y a énormément de livres qui passent à la trappe et qui ne sont pas rentables. Mais grâce à un prix, un livre, on peut en éditer beaucoup d'autres et faire plaisir à beaucoup de lecteurs.
Ce qui est le cas ici dans votre maison d'édition ?
En fait, dans la maison d'édition, on a eu quelques livres qui ont eu des petits prix. On a Funking Melody qui est un...
De Noël Cicini,
qui a eu un prix.
Prix même, en 2021.
Il a eu deux prix en 2021. Et grâce à ça, évidemment, ça permet d'avoir de meilleures ventes. Mais ça ne suffit pas, c'est des petits prix quand même. Après, on a eu Rémi Bellhomme qui a eu un prix, le prix Claude Vaugelas. Ça a permis de rééditer le livre, donc que la première édition soit épuisée et qu'on réédite une deuxième édition. Ça, c'est important.
Et ces éditeurs, tu viens d'évoquer Noël Cicini, Rémi Bellhomme. Est-ce que ce sont des auteurs qui sont fidèles à un seul éditeur ou est-ce qu'ils ont plusieurs éditeurs? Est-ce que c'est... quel est le compagnonnage? Est-ce que c'est du polyamour ou est-ce que c'est...
Alors, les auteurs ne sont pas liés du tout. Ils font ce qu'ils veulent, en gros, sauf s'ils ont un contrat d'exclusivité. Ça peut être le cas. On peut demander un contrat d'exclusivité, ce qui est rare quand même. Mais ils sont fidèles. Enfin, généralement, ils demandent d'abord à leur éditeur. Et si l'éditeur dit non, ils vont voir ailleurs. Et c'est assez logique, en fait. Un éditeur ne peut pas tout éditer. Et puis parfois, ça ne rentre pas dans une collection.
Alors, merci pour la transition, justement. On parle de collection. Les éditions au pluriel, alors je ne sais pas si c'est pour ça, une petite incise, au non. Pluriel.
Non, c'est parce que l'atelier, c'était l'atelier pluriel,
voilà.
Qui existait depuis 20 ans avant que je le reprenne. Donc Et c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, de les appeler les éditions au pluriel. C'était pas la meilleure idée. Ah. Mais bon, elle est là et maintenant j'en suis contente et fière.
En tout cas, il y a une pluralité de collections, parce que c'est ça aussi, donc cette maison d'édition, les éditions au pluriel, vous proposez plusieurs collections, donc avec des types de livres très différents. On a à la fois du polar, ça c'est ultraviolet, j'avais noté tout ça, mais je ne sais pas où c'est. Oui, il y a du polar, il y a du roman, il y a de l'imaginaire, cuisine actuelle aussi, poète d'aujourd'hui, art et voyage, essais et philo. Comment ça se construit une collection ? Comment ça se décide ?
Au début, je n'ai pas bien décidé. J'ai fait quand même des petites erreurs parce qu'au début, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller exactement. Et en fait, c'est très important de construire une collection, de réfléchir dès le premier ouvrage, quel est le format qu'on veut lui donner, quelle est l'identité qu'on veut lui donner, et s'y tenir. Alors, on est parti de manière plurielle, en effet, un peu de toutes parts, en se disant, on va lancer nos filets, et puis on verra ce qu'on ramène, et en fonction de ça, on va continuer ou on va arrêter. Et c'est ainsi que, par exemple, la collection Poète d'aujourd'hui, on a sorti 3 livres et on a vraiment du mal. La poésie, ça se vend très, très, très mal. On en offre beaucoup, mais on en vend très peu. Donc, on les garde parce qu'en fait, ils sont très beaux, on est très contents, mais c'est problématique. Donc là, on ne va plus, pour l'instant en tout cas, au moins dans les 2 prochaines années, on ne va plus d'idées de poésie. Malheureusement, mais on doit quand même faire des choix. Par contre, la collection ultraviolet fonctionne bien. Et là, c'est une collection ultraviolet. Pourquoi ? Parce que l'ultraviolet, c'est plus noir que noir. Donc, ça vient de là. Et là, on a voulu faire du thriller, du polar. Et il y a quand même un public, il y a des salons spécialisés, ça aide pas mal ça à développer.
C'est un bouquin sur 4 qui est vendu, qui est du polar.
Qui est du polar, voilà. Mmh. Et pourquoi ? Parce que le polar, ça se lit quand même bien, ça fait appel à l'imaginaire des gens, ça détend.
On sait où on va, il y a une intrigue et on essaie de...
Tout à fait. Et donc, je pense que dans les polars, on a fait des bons choix. Ils sont sympas, les auteurs sont motivés. Donc on a donc Fucking Melody de Noël Cicini, on a Meurtre entre les voûtes de Bruno Vincent, on a deux livres de Daniel Vaux, Le bouquet empoisonné et Mon double maudit. Et puis on a aussi On n'aurait jamais dû ouvrir la porte. On avait commencé par un tout petit livre qui s'appelle L'assassin habite au Vence de Annie Laurent. Malheureusement, Annie Laurent nous a quittés très peu de temps après la sortie de son livre, ce qui fait qu'il n'a pas été réédité. Et c'était un livre, un polar comique. Voilà.
Alors là, tu es venu avec plein de livres là qui sont dans le studio sur la table. Tu as pris notamment dans cette collection ultraviolet Meurtre entre les voûtes dont tu viens de parler de Bruno Vincent, parce que as-tu dit c'est aussi un auteur du coin. Alors ma question c'est une petite maison d'édition, est-ce qu'elle n'édite que des gens, des écrivains, écrivaines locales, ou alors est-ce qu'il y a aussi des écrivains d'ailleurs qui proposent leur manuscrit à votre maison d'édition, par exemple ?
On reçoit des manuscrits qui viennent de toute la France et même de l'étranger. C'est plus facile de discuter avec un auteur local, mais c'est avant tout la qualité qui va compter. Pour nous, c'est la qualité de l'écrit et le fait qu'il rentre dans une de nos collections. Mais on a quand même eu la chance d'avoir Franck Andria, c'est un auteur belge, mais qui a sorti plus de 150 livres, qui a vendu 500 000 de livres, et qui a eu la gentillesse de dire « je vais confier mon manuscrit à une petite maison d'édition ». Donc ça, c'est un plus. D'ailleurs, en 3 mois, on a vendu... plus d'une centaine de livres sans avoir fait vraiment de pub. Donc on se rend compte quand même que un nom, ça compte. Alors là, le dernier livre qui vient de sortir, il s'appelle « Une vie sous le vent », Fabrice Sluys. Il est près de Bordeaux, donc c'est pas un auteur local. Ce sera moins facile pour les contacts, mais d'un autre côté, ça peut nous ouvrir des portes dans des librairies ailleurs, ce qui n'est pas facile, comme je le disais tout à l'heure. Le plus dur pour une maison d'édition, c'est de passer la porte d'une librairie, que le libraire vous fasse confiance et surtout mettre vos livres en avant. Moi, j'espère quand même que les libraires se rendent compte qu'ils vendront d'office le prix Goncourt, qu'il n'a pas besoin d'être en vitrine, mais que l'auteur local, que la maison d'édition du coin, eh bien, elle a besoin d'être visible. Plus que les grands auteurs des grands prix.
Parce que comment ça se passe justement pour la distribution, la diffusion ? C'est toi ou en tout cas ton équipe qui contacte les libraires, par exemple, ici.
Oui, on est en fait trop petit pour être diffusé par des grosses centrales. Et puis c'est à double tranchant. Une grosse centrale va vous demander de faire des tirages importants pour inonder le marché. Et puis, en fait, l'éditeur, il est obligé de reprendre les invendus. C'est une obligation légale. Donc, on peut se retrouver très bien après 3 ou 6 mois avec 900 livres sur 1000 qui reviennent et qui, à ce moment-là, sont bons pour la poubelle. Et ça, c'est un gaspillage qui ne me convient pas, qui ne convient pas à mon éthique. Et donc, rien que pour ça, je le ferai pas. Mais on commence maintenant à être courtisé par les diffuseurs. Il faut quand même savoir qu'un diffuseur prend généralement à peu près 30% de marge sur le livre.
30% de marge.
Oui, c'est assez drôle, hein, le livre. Bon, il y a le coût du livre au départ, il y a les droits d'auteur, c'est environ 10%. Hein, un auteur, il a à peu près 10% de droits d'auteur. Le libraire, il a 35% de remise, il faut qu'il vive, qu'il paye son local, tout ça, c'est logique. Et le diffuseur prend entre 20 et 30% aussi. Donc ce qui fait qu'il ne reste pas grand-chose à la maison d'édition.
Oui, je viens de faire le calcul, quoi, 15% à peu près, 15-20%, ça dépend.
Oui, et il faut payer l'imprimeur et faire le job. D'où le fait qu'il faut vendre beaucoup de livres pour assumer les frais fixes de départ.
C'est très très intéressant, et c'est vrai que ce sont des choses qu'on n'a pas forcément en tête. Tu es donc venu avec plein de bouquins. On peut parler du dernier en date, un format hors norme qui s'appelle Transhumance, un livre à la fois de photographie de Pierre Merle et de texte de Tassadite Favry, qui est la conservatrice du musée des Vences et qui est notamment zooarchéologue, je pense. Transhumance, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce livre et ce projet ?
Alors, Transhumance, c'est un projet dont on a parlé déjà il y a quelques années. J'avais fait la connaissance de Pierre Merle quand il avait fait son premier livre, Le Chant des Berles, je ne sais plus en quelle année, mais j'avais travaillé sur la maquette de ce livre-là avec Pierre Merle. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Tassadite Favry, que je côtoie évidemment très souvent au Vence, m'a parlé du travail qu'elle avait fait avec Pierre en partant sur les chemins de la transhumance et en interviewant des bergers, des éleveurs. Et ce travail était évidemment très intéressant, mais ne pouvait pas se faire sous forme d'un petit livre de poche qui ne coûte pas trop cher. C'était pas possible. Les photos de Pierre Merle demandaient quand même un grand format. Les textes représentaient quand même une partie importante. Il fallait réfléchir à comment articuler un ouvrage comme ça. Et trouver les fonds. Parce que on n'a pas les moyens de faire de très gros livres parce que ça coûte très cher à la fabrication et qu'on ne peut pas faire de très gros tirages, comme je l'expliquais, parce qu'on n'est pas sûr de les vendre. Donc ça a pris un petit peu de temps avant que ce projet mûrisse et on s'est à un moment décidé en disant voilà, on y va, on sort deux livres. On a sorti Transhumance, mais un mois avant, on a sorti un livre sur le peintre Guy Tétot qui est du même gabarit. Donc c'est un livre de 200 pages en couleur, 24 par 30, donc ce qu'on appelle un beau livre. Mmh. Donc la transhumance, c'était évident que c'était intéressant et qu'il fallait faire quelque chose de ça.
C'est passionnant parce que justement c'est vivant, c'est vraiment là dans les portraits, c'est ethnographique, mais de l'ethnographie d'aujourd'hui, contemporaine, d'une activité.
Oui, et puis l'intérêt aussi, c'est que on a affaire à des personnes qui ont des parcours de vie très différents. Et donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant à lire. C'est agréable parce que, justement, ce sont des dialogues. Il y a par-dessus quelques petites réflexions de Tassadi Favri sur la transhumance en elle-même et sur l'avenir de ses éleveurs. Et puis, les photos de Pierre Merle qui sont très, très émouvantes. Et ça, évidemment, c'est pour nous, c'était important. Mais je voulais aussi parler de ce livre de Guy Tétot parce que c'est un livre qui me tient à cœur. J'y ai travaillé pendant 3 ans. Et en fait, Guy Tétot est un peintre qui habite Bannes, qui a vécu toute sa vie grâce à son dessin et qui est très discret, en fait. Alors qu'il est sociétaire des artistes français depuis 1967, que c'est lui qui a introduit la sérigraphie artistique en France. En fait, il a fait plein de choses dont il ne parle jamais. Il a travaillé avec les plus grands illustrateurs, Pierre Couronne, Philippe Kieffer. Il a donné des cours à certains de ces grands illustrateurs. Et en fait, il est tellement discret qu'on n'en parle jamais. Et chaque fois qu'on a un livre sur un peintre, c'est un peintre mort. Alors, Guy Tétot, il a 87 ans. Et je tenais à ce que ce livre y sorte avant qu'il ne soit mort. Je lui souhaite une longue vie, hein, aussi longue que celle du Gaufret, mais en tout cas, je tenais absolument à ce que ça sorte. Voilà. Et c'est un livre pareil, 200 pages, couleur, 24-30, un beau livre que j'espère on s'arrachera à un moment.
En tout cas, qui est à retrouver déjà dans les librairies, librairies d'Evance, librairie à Aubenas, librairie locale et ailleurs.
Oui, un peu partout. Hein,
parce que la diffusion n'est pas que en Ardèche.
Ah non, la diffusion, elle est partout. Hein, on a la chance de pouvoir être diffusé sur toutes les plateformes que les libraires peuvent commander nos livres n'importe où. Toutes les grosses plateformes comme Le Furet du Nord, De Citre, Chapitre, même la FNAC, enfin, tous les peuvent commander nos livres et nous les commandent d'ailleurs. On en vend pas mal un peu partout en France.
Merci beaucoup Fabienne, c'est passionnant, cet univers du livre est passionnant, et justement on note, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, peut-être même de faire une émission spéciale, le salon Les Livres et les Vences, la 3e édition qui est programmée du 23 février au 1er mars, justement où vous allez réunir différents acteurs du livre, donc...
C'est une petite semaine où il va se passer au Vence toute une série d'événements dans des endroits différents, dans les librairies des Vences bien sûr, au cinéma, au centre culturel Revivre, au centre Graines de Rencontre, le dimanche, une grande manifestation comme on l'avait pu le faire en 2024 qui réunit une cinquantaine d'auteurs, plus d'autres personnages qui tournent autour du livre et des maisons d'édition Cévenol. On espère avoir autant de monde qu'on a eu en 2024. En 2024, un peu plus de 1000 personnes s'étaient pressées pour venir voir le livre. Donc il y a quelque part une demande. Hein, donc on est très très contents de ça et on espère qu'on aura autant de succès cette fois-ci, et qu'on aura l'occasion en effet d'en reparler sur Fréquence 7 à un autre moment.
On vous le souhaite en tout cas le succès, et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup Fabienne Dedine, donc les éditions au pluriel au Vence, avec une riche actualité.
Merci Sophie de votre accueil sur Fréquence 7.
Et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, auditrices, auditeurs. Restez à l'écoute de Fréquence 7 à 13h. Parole de citoyenne et citoyen. Non, me dit Sylvain, mais non, il n'y a pas parole de citoyenne et citoyen. À 15h par contre, il y a bien le Telex. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, la collective. Et à 20h, la tête dans le sillon, l'émission vinyle de Fréquence 7, qui cette semaine disserte musicalement sur le thème de la pluie. Alors, pas facile pour Maca, qui doit se creuser la tête pour sortir des vinyles reggae sur le thème de la pluie. Nous, on se retrouve lundi pour une émission autour d'une nouvelle aventure, celle d'un, ce qu'on appelle un marketplace pour les artisans et artisanes d'art confectionnés par Zéfix. On en parle lundi et demain, on se retrouve pour Cinémascope. Ciao.